18h-19h, Time Time Sport, avec Guillaume Ascari sur Beur FM.
Chers auditrices, chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque soir du lundi au vendredi de 18h à 19h pour décrypter, analyser l'actualité sportive. Voilà, on va parler aujourd'hui de la CAN au programme avec notamment le secrétaire général de la Confédération Africaine de Football, l'Égyptien Amer Fahmy, qui a été licencié. On parlera également de la Ligue des Champions, des matchs d'hier et des matchs d'aujourd'hui, notamment la victoire de l'Ajax de buts à 1 face à la Juventus. On va parler également d'une start-up, OnePlay, avec son cofondateur, Ivan, et merci. Et on parlera également de la Ligue des Champions, voilà, comme je l'ai dit, avec les matchs d'aujourd'hui. Et on finira avec le PSG et la Ligue 1. Voilà, c'est parti pour Beur FM.
Time Time Sport.
Et donc pour nous accompagner aujourd'hui, Marion Hédalo. Comment ça va, Marion?
Ça va très bien, Guillaume. Je suis ravie d'être avec toi ici sur Beur FM.
Avec le soleil en plus. Saïd, oui. Comment ça va, Saïd?
Ça va, alhamdoulilah, et toi?
Écoute.
Moi, je suis chaud dès mercredi. Là, l'Ajax a gagné, je suis chaud.
Écoute, on en parle dans quelques instants. Kamel Aïka, comment ça va, Kamel?
Ça va, Guillaume, enchanté. Un grand bonjour à nos auditrices et nos auditeurs de Beur FM.
C'est top. Et puis notre invité, Ivan, comment ça va?
Mais très, très bien. Je suis très content d'être là. Merci pour ton invitation.
Et on va parler évidemment de OnePlay dans quelques instants. C'est parti pour le ras-le-bol et la CAN.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, le ras-le-bol, ça peut être celui du secrétaire général de la Confédération Africaine de Football, l'Égyptien Amer Fahmy, licencié, voilà. Évidemment, un licenciement loin d'être anodin, comme l'a signalé Reuters, puisqu'il avait envoyé une lettre à la FIFA fin mars pour balancer plusieurs dossiers compromettants concernant le malgache Ahmad, président de la CAF. Alors que la CAN doit commencer dans un tout petit peu plus de 2 mois en Égypte, n'avez-vous pas l'impression d'assister à une pièce de théâtre, à un vaudeville? On commence avec Kamel. Kamel.
Oui, c'est encore bis repetita, hein, toujours ces problèmes de corruption, de juste avant la CAN. Après, tout le monde est mouillé. Pour une fois, qu'il y a quelqu'un qui dit la vérité, qui montre du doigt la problématique, hein, parce que le président, au-delà de ça, c'est vrai que accuser quelqu'un de corruption, faut avoir des preuves. Mais là, il y a une preuve. Hein, le président de la CAF, il a rompu unilatéralement le contrat avec Puma. Quand on sait que Puma est vraiment l'équipementier des pays africains et que c'est un équipementier qui a toujours soutenu les pays africains et les équipes africaines. Donc il a résilié le contrat unilatéralement pour signer un contrat avec une société française, Tactical Steel. Et ce contrat coûte plus de 800 000 euros en plus que ce que coûtait Puma. Donc là, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment quelque chose de concret. Donc voilà. Donc en plus, comme il a rompu le contrat unilatéralement, donc Puma va sûrement attaquer en justice. Donc voilà. Donc à un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre de cette corruption, de ça. Ça, le football africain n'avancera pas à cause de ça. Et c'est pareil. Hein, c'est toujours. Et ce qui est énervant, c'est que le comité exécutif, ne soutient pas, ne l'a pas soutenu et a acté son licenciement, parce qu'aussi le comité exécutif est mouillé jusqu'à la tête aussi. Donc ils sont tous gangrenés et c'est toujours les mêmes qui payent, quoi. C'est le peuple, c'est le football africain. Et sincèrement, il y en a marre. Stop. Comme on dit en Espagne, basta.
Saïd, un petit mot justement sur ce licenciement finalement de dernière minute, puisqu'on a moins de 2 mois de la CAN.
Bah, c'est un licenciement un petit peu louche, parce que ça arrive à un moment où cette personne a parlé. Donc oui, on se dit qu'il y a peut-être une corrélation entre ses déclarations et son licenciement. Alors il a dénoncé plein de choses, il a dénoncé des trafics dans les contrats, et je donne le contrat à l'entreprise de mon pote, et je m'achète des voitures en Égypte, à Madagascar, et il y a des accusations aussi d'agression sexuelle de la part d'Ahmed contre des employés de la CAF 4 notamment. Donc oui, là à mon avis, c'est qu'il parlait peut-être un petit peu trop, et on essaie de s'en débarrasser, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, parce que quand tu fais ça, bah, la preuve en est, c'est qu'on en parle. Avant ça, je n'avais pas entendu parler de cette histoire. Donc bon, il n'est pas très malin d'avoir éjecté cette personne, puisque là, justement, il attire l'œil sur ses agissements. Maintenant, on va essayer de chercher à savoir si cette personne disait vrai ou non.
Et donc oui, dans cette lettre, l'Égyptien accuse Ahmad Ahmad de corruption, ce dernier lui ayant versé 20 000 dollars de pot de vin sur les comptes des différents présidents des fédérations africaines. C'est tout, pas vraiment, hein, puisqu'il est également accusé d'avoir utilisé 400 000 dollars de fonds de la CAF, évidemment, comme le disait Kamel à l'instant, et d'avoir harcelé sexuellement 4 de ses employés. Le déroulement de la compétition pourra-t-il faire abstraction et donc être de bonne tenue, malgré une préparation en coulisses des plus agitées et évidemment guignolesques.
C'est pas la première fois, quand même, si on prend un peu de hauteur, qu'il y a des affaires de corruption dans le football, et pas simplement dans le football africain, dans le football en général. Donc oui, bien sûr que la CAN va bien se passer, parce que les peuples seront au rendez-vous, parce que le football reprend toujours ses droits, parce que au-delà des histoires d'argent ou des histoires de mœurs, comme Saïd vient de le dire, eh bien, il y a la passion, et que c'est toujours dommage, parce qu'on a toujours tendance à couper la tête de celui qui dit la vérité. Ça, c'est toujours le problème, et que ce soit en Afrique ou ailleurs, d'ailleurs. Hein. C'est pas
pour toi, ça va pas entacher du tout la CAN.
Mais bien sûr, une affaire de corruption entache toujours, mais la vérité, malheureusement, c'est que le football va reprendre ses droits, et que des affaires de corruption, il y en a eu plein. Il y aura celle-là, il y en aura d'autres.
Saïd.
Non, pour moi, la CAN va se dérouler de façon tout à fait normale. Ils ont déjà nommé un remplaçant qui est d'ailleurs marocain, Mouad Haji. Bon, ils ont déjà tout ficelé. Je pense qu'ils ne l'ont pas viré du jour au lendemain. Ça faisait un petit moment peut-être qu'ils cassaient les pieds de pas mal de gens dans l'instance en se disant on va perdre nos privilèges. Donc oui, ils l'ont éjecté, ils l'ont déjà remplacé. La compétition, elle va se passer. Je pense que les préjudices vont arriver post-compétition. C'est là où on va se dire... Est-ce qu'il va y avoir des choses ou pas? Parce que l'enquête ne va pas arriver très rapidement. La FIFA a même refusé d'annoncer s'il y avait une enquête ouverte ou pas. Donc bon, à mon avis, la CAN se déroulera comme prévu. Et c'est après qu'il y aura peut-être des sanctions, mais des conséquences, si personne n'oublie cette histoire, bien sûr.
Kamel.
Moi, ce qui est plus grave, c'est que voilà, c'est qu'on se sépare d'un partenaire important comme Puma, qui est partenaire du football africain depuis des décennies, qui a travaillé sur des programmes culturels, sur des programmes sociaux par rapport aux enfants. Et là, on se coupe de ça. La corruption, on a toujours eu, c'est un fait. Mais là, ce qui est grave, là, c'est qu'on s'attaque vraiment à un partenaire. Et là, quand je dis c'est le peuple, c'est vraiment les enfants, parce que Puma a travaillé beaucoup au niveau des programmes sociaux, des programmes éducatifs dans les pays d'Afrique. Et sincèrement, c'est ça qui m'agace le plus, c'est de se séparer d'un partenaire comme ça, et qui n'était pas qu'un partenaire financier, qui était beaucoup plus que ça.
C'est malheureux, mais il y en aura un autre qui prendra la place, parce qu'il y a une place à prendre.
Oui, mais Marion, est-ce que ce partenaire qui viendra aura les mêmes aptitudes et la même volonté que Puma? Parce que Puma, ça fait quand même... des années et des années qu'ils ont fait ça.
Si vous nous rejoignez sur Beurre FM, évidemment, on parle de la CAN, et notamment du licenciement, voilà, du secrétaire général. Je rappelle que vous pouvez réagir au 01 53 48 30 00 ou avec le hashtag Thaïsport sur Twitter et sur Facebook. Voilà, et d'ailleurs, j'en profite évidemment pour dire voilà, qu'au passage, il y a une chroniqueuse qui nous rejoint dans le studio, Mariama Benrabia, voilà, qui fait justement son arrivée, une arrivée tonitruante.
Tonitruante
dans le studio. Non, mais il faut le préciser. Comme
elle
ça,
elle ne parle pas, mais elle tourne autour de la table.
Exactement.
Et ça, c'est fort, Guillaume.
Et elle arrive dans quelques instants. En tout cas, on est avec notre invité, Ivan Bollet, qui est créateur, évidemment, cofondateur de la start-up OnePlay. Un petit avis, justement, sur un petit mot général sur la CAN, et notamment voilà, sur cette éviction, sur ce licenciement.
Oui, tout à fait, parce que hier, l'équipe publié un article en disant que le secrétaire général également de la CAF a été licencié. Donc là, deux personnes qui gèrent, en fait, qui sont licenciées. Bien entendu, la CAF va se dérouler normalement, hein, les personnes sont assez professionnelles, mais les dommages, encore une fois, que le football africain montre cela au monde. Et il est temps de passer à autre chose, à montrer une stabilité, qu'une coupe importante comme ça, en plus en Égypte, ça va être la première fois en été, va s'organiser. Donc je crois qu'il était peut-être l'occasion de montrer quelque chose de grand, de beau en Égypte, et ne pas assister à ces règlements de compte en interne. Mais comme on l'a dit déjà, c'est vraiment après coup que les choses vont se passer.
Est-ce que tu penses que ça va entacher justement cette compétition?
Alors non, parce que je pense que c'est une compétition qui a l'habitude de se dérouler dans des circonstances un petit peu difficiles, comme on le connaît. Mais je crois que quand même, au niveau de la gestion générale de la CAF, ça n'aide pas non plus à évoluer dans les directions qu'ils avaient promis.
On va demander d'ailleurs à notre chroniqueuse Mariama. Mariama, on parle du licenciement du secrétaire général de la Confédération africaine de football. Est-ce que c'est grave pour la compétition ?
Alors, j'ai pas écouté tout ce que vous avez dit dès le départ, hein, mais alors grave, oui, en partie quand même, en Afrique, encore une fois, en fait, il se passe toujours des choses. Alors, je ne dirais pas que ça n'arrive pas en Europe, bien sûr que ça arrive, mais on en parle moins. Donc, en Afrique, c'est toujours des événements, des petites choses qui troublent un peu le football africain, c'est bien dommage. Et pour la compétition, qui a déjà été troublée par d'autres... par d'autres troubles, d'autres petits soucis. Donc il était temps en fait que ça s'arrête.
Et donc du maintenant, coup, quelle solution draconienne envisager afin de normaliser la gouvernance de cette compétition? Quelles sont les solutions?
Bah, la solution, je ne sais pas quelle est la solution. Je ne suis pas là pour apporter les solutions, mais les instances du football doivent trouver en tout cas ces solutions-là.
Maria, puis... elle ne te donne pas des solutions gratuites, frère.
Je ne sais pas. Je me suis dit peut-être qu'elle allait donner une solution. Attends.
Non, mais c'est vrai que le football. Mais au-delà du football africain, je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'on a connu, la corruption, ne serait-ce qu'en Europe, ne serait-ce que l'OM l'a connu. Désolé de revenir là-dessus. Je vois Kamel, Mariama. Pas de la même manière, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que la corruption, c'est quelque chose, en tout cas, en Europe, on a connu, même au-delà d'ailleurs.
Oui, c'est pour ça que c'est partout, hein, c'est mondial.
C'est pas que le football africain.
Et partout, il y a de l'argent, il y a du business, évidemment, il y a de la corruption.
Exactement. Et donc, ce qui est choquant surtout, c'est que c'est à 2 mois de la CAN. Mmh. Donc c'est vraiment relié. C'est-à-dire qu'on sait que la fête a un petit peu entaché, mais elle ne le sera pas dans le sens où, comme j'ai dit, le football va reprendre ses droits. On va parler tout à l'heure, j'imagine, de Liverpool. Ben, on va parler de Sadio Mané, on va parler de Mohamed Salah, on va parler du football africain. Et donc voilà, c'est juste encore une fois un problème dans le football, c'est-à-dire que c'est vraiment une institution qui est difficile à bouger. Là, vraiment, je parle de toute l'institution, je ne parle pas que du football africain. C'est toujours difficile à bouger. Et on sait, comme Maria m'a dit, quand il y a beaucoup d'argent, obligatoirement. Mais obligatoirement, tout le monde veut en profiter, un peu trop.
En tout cas, quand on parle de corruption, Marion, évidemment, ça fait réagir oui, sur les réseaux sociaux. Et ça fait réagir également nos auditeurs. D'ailleurs, on est avec Ahmed, qui nous appelle du 18e arrondissement de Paris. Bonsoir, Ahmed.
Bonsoir, monsieur.
Évidemment, tu as.
Et dames, peut-être, parce qu'il y en a deux quand même.
Voilà.
J'allais juste m'exprimer, mesdames, pardonnez-moi.
Eh ben voilà.
J'avais préparé mon intervention, j'allais.
Ah, bah parfait.
Et j'allais saluer votre arrivée, madame.
Ah,
et donc Ahmed, t'allais nous parler de. Voilà, Ahmed, t'allais.
Mesdames, il n'y a pas de souci.
Tu allais nous parler de la CAN, notamment du licenciement du secrétaire général.
Moi, je vous explique. J'approche la cinquantaine. Je connais le football africain depuis les années 70. La première Coupe d'Afrique que j'ai suivie, c'est en 84 sur Alger Chaîne 3. J'ai toujours su que c'était une confédération corrompue. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Marion, elle a dit un super truc. Le vide, il sera comblé. Tu vois, ils vont partir.
Le vide, il sera comblé, mais il sera comblé comment?
Pardon?
Il sera comblé comment, le vide?
Ben, le vide, il y a un autre Adidas ou Nike qui reviendront. C'est une confédération corrompue. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et je vous rajoute quelque chose, s'il vous plaît. Regardez, il y a eu le tirage au sort de la Coupe d'Afrique il y a quoi? Même pas 10 jours.
Oui.
Dans deux mois, il y a la Coupe d'Afrique en Égypte. Expliquez-moi comment les équipes nationales peuvent sélectionner un hôtel, des infrastructures d'entraînement en 2 mois. Alors qu'en Europe, le tirage au sort, il a lieu en novembre. La Coupe d'Europe, elle a lieu en juin. Ils ont plus de 6 mois pour se préparer. Regardez. Quant au responsable de la Fédération africaine de football, Ahmed, j'ai eu l'occasion de l'écouter. Il était interviewé par une journaliste sur France 24. Sincèrement, j'avais pas de décodeur, j'ai rien compris.
Donc pour toi, cette corruption, elle entache quand même la compétition et ça date pas d'hier, c'est ça, pour résumer.
Toujours, monsieur, quand vous regardez l'état des stades, 98% des stades en Afrique, et pourtant il y a du pognon, 90% des stades en Afrique, c'est des champs de patates. Comment vous l'expliquez?
Eh ben,
il y a pas que le pognon dans le football. Hein.
En tout cas, merci pour avoir évidemment réagi sur l'antenne de Beurre FM. Tu es le bienvenu, Ahmed. Tous les soirs de 18h à 19h, on aura l'occasion évidemment de revenir voilà sur la CAN, puisqu'il va y avoir des rebondissements, et puis c'est dans pas longtemps évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec les déclarations de notre auditeur Marion?
Je ne peux être que d'accord puisqu'il a été d'accord avec moi.
Donc, oh là là, ouais, c'est l'impartialité.
On appelle ça du savoir-vivre.
Il est très sympa et on l'embrasse très fort, et bien sûr je suis d'accord évidemment avec ce qu'il a dit, bien sûr.
Guillaume, il y a quelque chose que je voudrais dire qui est important. On dit, c'est vrai que le vide va être comblé par un équipementier, mais mettons-nous ce qui est important, c'est que la dimension sociale qu'avait Puma dans le football africain.
Oui, c'est-à-dire mais les Adidas équipes... peut le faire.
Non, mais...
On sait que quand c'est l'Afrique, pardon. Hein,
vas-y.
Mais là, vraiment, je regarde les choses de manière hyper européenne. Là. On sait que quand on va faire quelque chose en Afrique, on sait qu'il va y avoir la dimension sociale et même humanitaire.
Est-ce que ça sera à la hauteur de l'investissement de Puma? Parce que Puma, même au niveau des équipes africaines qui n'avaient pas les moyens, qui étaient problématiques, ils ont mis en place la logistique, comme
oui,
si c'était des clubs européens. Ils les ont aidés.
Oui,
ils ont fait en sorte que justement le football africain, en termes d'image,
Puma n'ont pas fait du social non plus.
Là, non, mais attends. On sait très bien, mais il y a du social quand même. Oui, mais il y a du social quand même. Saïd, il y a une dimension sociale. Faut pas l'enlever.
Non. Cher consultant, on aura l'occasion d'en reparler parce que la Coupe d'Afrique des Nations 2019, c'est du 21 juin au 19 juillet. Restez connectés sur Beurre FM. On se retrouve dans quelques instants avec le cofondateur de OnePlay, Ivan Bollet. Voilà, il va nous parler un peu de sa start-up. A tout de suite sur Beurre FM.
18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport. Voilà, chers auditeurs, chers auditrices, avec les consultants Marion Edalo, Saïd Hamda, Mariama Benrabia et Kamel Aïd Kera. On a parlé évidemment de la CAN. La CAN, évidemment, c'est du 21 juin au 19 juillet prochain. Maintenant, on va parler d'une start-up. Voilà, une start-up un peu innovante. OnePlay, évidemment, avec son cofondateur Ivan Bollet. Une appli qui permettra aux supporters d'être en contact direct avec le terrain pendant les matchs. C'est parti, c'est incroyable, mais bref.
Time Sport.
Et bon, on t'a déjà présenté en début d'émission, Ivan, mais on va revenir un peu sur, évidemment, on va parler de la start-up que OnePlay, évidemment, cette appli qui permettra aux supporters d'être en contact direct avec le terrain pendant les matchs. Mais je te laisse te présenter dans un premier temps, évidemment, me parler un peu de ton parcours et pourquoi justement avoir créé OnePlay.
Bien, je suis belgo-congolais, donc de Bruxelles. Je suis arrivé à Paris exactement il y a 2 ans, tout simplement lors de la Coupe de Confédération en 2017. Et personnellement, j'ai un background business developer, travaillé pour plusieurs structures, boîtes, notamment en Belgique. Et je suis fan de foot, j'ai des amis qui sont footballeurs professionnels en Belgique, ils ont joué à l'équipe nationale notamment, et donc j'ai toujours été très très proche du football. Et lors de la Coupe des Confédérations en 2017, j'étais en train de suivre les matchs, et là j'ai eu une impulsion, je voyais un joueur qui faisait n'importe quoi, je me suis dit, mais pourquoi il ne fait pas sortir l'entraîneur? Et de là, j'ai eu une idée, j'ai dit aux amis qui étaient à côté de moi, mais ça serait intéressant de pouvoir dire à l'équipe qui est sur le terrain, mais pourquoi ne faites pas vous ceci ou cela? Pourquoi pas ensemble pouvoir proposer des solutions à l'entraîneur, parce que nous avons une vision autre, une dimension plus large que l'entraîneur qui voit au niveau horizontal. Et j'en ai parlé à mes amis qui ont apprécié l'idée. On a commencé à travailler sur l'idée tranquillement, et en novembre on s'est lancé à fond sur l'idée après que plusieurs personnes aient validé, notamment des footballeurs professionnels, aient validé la manière à laquelle nous voulions proposer ce projet au monde du football.
Et donc du coup vous êtes accompagné évidemment pour la création et le développement de cette appli. Cette appli, elle permettra aux supporters d'être en contact direct avec le terrain pendant les matchs. Explique-nous comment on peut mettre ça en place.
Très bien. En fait, il y a deux parties. Il y a une partie des supporters qui sont à l'intérieur du stade et à l'extérieur. Donc, ceux qui sont à l'intérieur pourront voir ce qui se passe à l'extérieur, vivre le match avec eux, et ceux qui sont à l'extérieur également. Mais maintenant, avec l'équipe, c'est que toi, par exemple, peu importe où tu sois en France, à Fréjus, à Marseille ou à Paris, tu es en train de regarder France-Belgique, hein. J'ai toujours à travers la gorge, et tu prends ton téléphone, tu penses que Griezmann devrait jouer un peu plus à gauche ou à droite, tu prends ton téléphone, tu inscris ton message, tu l'envoies. 5 minutes plus tard, si l'équipe valide ta pensée, eh bien Griezmann jouera où tu penses. Pourquoi? En fait, on a créé un système qui permet à l'intelligence collective de pouvoir soumettre des propositions à l'entraîneur. Ça a été notamment discuté avec la FIFA. J'avais été le 27 avril en 2017 là-bas. Et nous sommes accompagnés notamment d'une personne comme Jérôme Roten, qui connaît le projet, qui nous a suivis dans le développement, qui nous a mis en garde sur certaines choses que les entraîneurs aimeraient et n'aimeraient pas. Mais il y a tout un process qui nous permet d'agir là-dessus.
Donc tu parlais de Jérôme Roten. Jérôme Roten, il est conseiller dans le cadre du développement de cette application. Quelles sont les phases de développement, clairement, pour développer une telle application?
Alors, au niveau tech, bien entendu, c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais au niveau humain et sportif, c'est important parce qu'il faut avoir des accords. Vous savez, l'entraîneur, il est occupé à à coacher l'équipe, donc il n'a pas le temps de suivre son application. Donc du coup, nous avons accès aux entraîneurs numéro 2 et 3 qui, eux, vont recevoir les propositions. Bien entendu, c'est une proposition qui est analysée sur le nombre des personnes qui vont travailler là-dessus, et il reçoit juste une seule proposition. Et à lui de pouvoir dire, ok, je la mets, qu'est-ce que je fais de cette proposition? Est-ce que je la mets en face de notre stratégie pour pouvoir proposer en temps réel une solution en entraîneur?
Et donc dans le cadre, par exemple, d'un match, ça serait l'entraîneur adjoint qui donnerait un peu ses conseils donnés par les supporters?
De toute façon, l'entraîneur adjoint, il est déjà là, il revient avec l'entraîneur, il est là, il va un peu édifier son analyse. Mais ici, l'entraîneur adjoint va recevoir cela et va le mettre en face par rapport à ce qu'il est en train de voir et va enrichir son analyse du match en temps réel.
Et donc du coup, actuellement, comment vous allez évidemment procéder? C'est-à-dire que vous allez le développer au niveau européen, en France. Pour le moment, vous êtes implanté à Dublin, c'est ça?
Nous sommes implantés à Dublin parce que nous sommes une start-up dans la tech et que Dublin, c'est la Silicon Valley de l'Europe. C'est vraiment très agréable d'être là-bas au niveau hub. Et puis, nous commençons en France parce que nous avons notre réseau en France. Et puis, le football français est très intéressant pour tester au niveau même du football amateur. Et c'est là qu'on commence. D'ailleurs, il y a un prototype qui sort dans une semaine. On va pouvoir le tester au niveau de la Ligue Nationale 3. Avec les villes de Île-de-France, Paris, Ivry, Aubervilliers, etc. Et alors l'objectif, c'est de pouvoir voir comment les supporters réagissent à cette application. Et au fur et à mesure, nous allons l'agrandir pour en septembre que bien tout le monde en France puisse l'utiliser.
Donc une version bêta, qu'est-ce qu'il y aura exactement sur cette version de bêta qui sort la semaine prochaine?
Alors là, on ne pourra pas directement communiquer avec l'équipe sur le terrain, proposer ces analyses. Mais les supporters qui vont être au match vont pouvoir, durant les matchs, interagir avec l'équipe. Donc l'équipe va pouvoir proposer des questions et les supporters pourront répondre directement à l'équipe pour pouvoir enrichir l'analyse de l'entraîneur.
Est-ce que ça existe déjà, avant de laisser la parole au chroniqueur, est-ce que ça existe déjà? Est-ce que on s'est renseigné un peu, voilà, est-ce que ça existe déjà un concept un peu similaire?
Alors, de concept similaire, presque oui, mais on va parler d'un concurrent direct, non. Parce qu'il y a une manière avec laquelle on le fait, bien sûr. Mais il y a une équipe qui est une start-up qui a déjà créé une manière de faire en sorte que les supporters décident en fait des compositions de l'équipe. Et donc, ils ont permis à leur équipe de pouvoir monter en ligue supérieure. Donc, on voit que cette idée d'interagir entre les supporters, l'équipe, avoir un autre angle de vue durant les matchs, intéresse quand même les clubs. Mais il faut aller slowly, bien entendu.
Kamel.
Oui, c'est vrai que cette start-up existe déjà en France. Hein. C'est une équipe de Régional 3, c'est anciennement DH. Voilà, donc c'est les internautes qui planifient les entraînements, qui font la composition d'équipe. Qui mettent en place le système de jeu. Et c'est vrai que ça avait permis à cette équipe de monter de Régional 2 à Régional 3. Et le problème, c'est qu'il y a eu la fédération française a attaqué cette start-up en justice et ils ont gagné. Et pour l'instant, c'est en stand-by. Donc, ils vont passer devant le Conseil d'État. Et c'est vrai que parce que toutes les autres équipes du groupe disaient qu'ils avaient cette équipe avec cette application avait un avantage sur eux, c'est-à-dire qu'ils avaient, au lieu d'avoir par exemple 4 yeux de l'entraîneur adjoint et le coach, ils avaient des centaines de yeux. C'est vrai que moi je trouve que ça peut être un bon système, mais après ce qu'il faut, c'est que ça soit toujours le coach qui est la situation finale. Mais là où ça peut poser un problème, c'est que tu peux être confronté à la fédération, aux instances de football, comme ça a été, ils ont attaqué en justice et ils ont perdu. Donc c'est là où ça peut être assez compliqué, c'est-à-dire les instances de football qui font qu'il n'y ait pas une égalité entre tous les clubs. Ça veut dire que voilà, c'est ça.
Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que tant pour cette start-up, en effet, j'ai vraiment pris le temps de l'étudier. Mmh. Je suis vraiment assez surpris que vous le connaissiez. Vous avez très bien fait votre travail.
Merci.
En fait, c'est qu'il y a, trois choses. Premièrement, il faut savoir que l'objectif des startups, c'est de pouvoir faire avancer les choses. Donc, si une startup n'est pas là et ne bouge pas les limites, ça ne sert à rien qu'elle soit là. Parce qu'à un moment donné, il faut évoluer. Qu'est-ce qui a changé simplement depuis 2000 ans quand on regarde ce qui se passait avant les Jeux grecs et aujourd'hui? Rien. On va dans les stades, on crie, on rentre chez soi, on est heureux. Nous voulons aller plus loin. Et donc, à un moment donné, il faudra un petit peu faire face à ces questions. Deuxièmement, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque équipe a l'occasion de pouvoir avoir des centaines de yeux. Dieu plutôt, pour pouvoir les aider. Il suffit simplement aux équipes de pouvoir télécharger, que ce soit OnePlay ou cette application, et on est parti. Ce n'est pas une application qui nécessite un paiement. L'équipe n'a pas à payer, les supporters n'ont pas à payer. À un moment donné, c'est la stratégie
de l'équipe en ce qui concerne leur management et leur façon de faire. Troisièmement, juste envie de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut collaborer aussi. L'objectif, ce n'est pas de dire nous sommes contre les géants, c'est pas David contre Goliath. Ici, l'idée, c'est vraiment de pouvoir dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire petit à petit ensemble ? Est-ce que c'est trop nouveau ? Est-ce qu'il faut aller par étapes ? Et donc, en fonction de cela, on va travailler avec...
Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que tu donnes le choix aux équipes. C'est-à-dire que tu donnes un outil. Voilà, tu vous donnes un outil, vous expliquez le fonctionnement. Et chaque équipe est libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Et c'est ça qui est important. C'est que tu as raison. Une start-up, c'est fait pour faire bouger les lignes, pour éviter de rester dans l'immobilisme, comme tu as dit. Sinon, tout le monde va rester en même. Mais là, vous donnez la possibilité à des équipes d'avoir un horizon différent, de voir d'autres choses. Et après, l'équipe qui veut prendre l'application la prend, il n'y a pas de problème. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi.
En parlant d'autre chose, j'allais y venir. Il y a les displays. Les displays, c'est des interviews vidéo de footballeuses professionnelles françaises. On finira cette interview là-dessus. C'est à destination d'un public de femmes actives à la recherche d'un modèle de réussite et d'inspiration féminine. Voilà une bonne idée à l'approche de la Coupe du Monde féminine 2019. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Tout à fait. Il faut savoir que dans notre start-up, il y a énormément des femmes. Donc notre investisseur, elle a 58 ans. Elle aime la technologie, elle aime le sport, elle a dit moi j'ai envie d'investir. Et parmi les stratèges, il y a énormément de femmes, elles ont dit il faut qu'on fasse absolument quelque chose. Et donc ces interviews vont permettre de mettre en avant ces joueuses. C'est bien qu'aujourd'hui les médias en parlent de plus en plus, mais il y a eu un problème, c'est que les médias n'en parlent pas. D'ailleurs l'UNESCO est en train de faire une étude pour voir comment peut-on médiatiser de manière plus massive le sport féminin et en l'occurrence le football féminin. Donc pour nous qui sortons en plus notre application en septembre, il était évident de pouvoir lancer une campagne de médiatisation par des interviews des footballeuses, mais également des personnalités publiques françaises pour pouvoir toucher le plus large public possible.
Et évidemment, on retrouvera plein de personnalités parmi ces interviews, notamment Wendy Renard, entre autres.
On attend encore des réponses, mais le Payeur, notamment ancienne footballeuse, qui apprécie vraiment l'idée. Sarah Souko, une actrice qui a joué dans le film Comme des garçons, qui retrace en fait l'histoire du football féminin. Donc d'autres personnalités encore qui ont accepté de jouer le jeu.
Merci Ivan Bollet, je rappelle que vous êtes cofondateur de la start-up OnePlay qui veut réussir à unir les supporters et le terrain. On enchaîne avec la Ligue des Champions et la victoire.
Time Sport, la victoire.
Et la victoire, c'est celle de l'Ajax hier face à la Juventus et celle de Barcelone, 3-0 face à Manchester United. On va commencer, on va faire un petit tour de table. Saïd, t'étais devant quel match hier ? T'étais devant l'Ajax.
Ah bah voilà. Sûr.
Un petit mot sur ce match et cette victoire de l'Ajax qui justement rejoint les demi-finales.
Magnifique, magnifique. Que demande le peuple ? On a cette petite équipe qui arrive à battre deux ogres, qui bat d'abord le Real Madrid, puis la Juventus Turin. On parle de faire une ligue fermée. Et ben on pourra plus vivre des moments comme ça quand on laissera que les grands clubs la jouer. Aujourd'hui, l'Ajax est le contre-exemple parfait de tout ce qui est financier, de tout ce qui est grande équipe, etc. Ils ont formé des joueurs, ils ont recruté intelligemment aussi. Et tout ce petit mélange fait que c'est une équipe surprenante. C'est-à-dire... ils ne calculent pas, ils jouent leur jeu comme ils le veulent, et s'ils doivent sortir, ils sortiront. Face à la Juve, c'est ça qui a fait la différence, et face au Real Madrid, c'est qu'ils ont joué offensif à toutes les périodes du match. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais décidé d'accepter le jeu, et s'ils avaient fait ça, ils auraient pris un but. Parce que quand tu décides d'accepter le jeu face à ces grosses équipes-là, t'en prends un. Donc quand tu décides pas, bah l'autre équipe ne sait pas quoi faire finalement. Elle est complètement submergée, ils ont des joueurs talentueux qui se la donnent aussi. Ça veut dire que même les attaquants font le repli défensif pendant 90 minutes. Et ça, c'est très rare. Moi, j'espère que l'Ajax prendra cette Ligue des Champions.
Et c'était mal parti, évidemment, hein, pour l'Ajax, puisqu'à la 28e minute, Cristiano Ronaldo inscrit le premier but du match avant de, évidemment, pour l'Ajax de revenir 34e, 67e minute. Et notamment, voilà, faut le préciser, c'est la première qualification en demi-finale pour l'Ajax depuis 22 ans. Marion, t'étais devant quel match hier devant...
J'ai regardé les deux. J'ai regardé le multi-zone parce que moi j'aime bien.
J'ai des gens qui travaillent ici.
Quart de finale, j'avais envie de voir.
Il y a des gens qui arrivent à faire les deux. Regarde, prendre de la graine.
Je me suis dit,
je ne suis qu'un homme, d'accord.
Je me suis dit autant voir les deux parce que Effectivement, je suis surprise, effectivement. Je ne vais pas à mentir sur ce qu'a fait l'Ajax.
C'est quoi, c'est Barcelone, c'est l'Ajax? Qu'est-ce qui t'a surpris?
L'Ajax, parce que... Et puis aussi, les choix, alors sans doute parce qu'il y avait des blessures, peut-être parce qu'il y avait des... Voilà, de la Juve, il y avait des joueurs qui n'avaient pas à jouer un quart de finale de Ligue des Champions. Enfin, j'ai eu l'impression parfois de voir un tout petit peu le PSG malade. C'est-à-dire que moi, pour moi, Bernardeschi ou Deschiglio, qui est absolument catastrophique, ou Rugani ou Emre Can, n'ont pas le niveau pour jouer un quart de finale de Ligue des Champions. Et ça, ça laissait beaucoup d'espace aussi à l'Ajax. Je ne dis pas que l'Ajax n'a pas bien joué, bien au contraire. C'était magnifique, très offensif, à une touche de balle. Ça m'a fait penser au football total des années 70. Oui, je suis vieille. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est le retour du grand Ajax. C'est vrai que pour les gens qui sont d'une autre génération, d'une génération plus âgée, l'Ajax a été un club mythique. Et on a vraiment l'impression qu'il y a à la fois cette expérience extraordinaire avec cette jeunesse. Et voilà, la seule chose que je regrette un petit peu, c'est qu'on ne verra plus cette équipe-là la saison prochaine. C'est terminé. C'est comme Monaco en demi-finale il y a deux ans. C'est comme Dortmund en 2013. C'est-à-dire que c'est des équipes qui sont là un moment. Il faut qu'on s'y attache tout de suite. Il faut qu'on les regarde maintenant parce que malheureusement, on ne les reverra plus jamais.
En tout cas, c'est tu fais bien de le préciser. Ouais, c'est beau évidemment le parcours de l'Ajax dans cette C1. Ivan, on va demander à notre invité Ivan Mollet. Évidemment, quel match t'as le plus convaincu hier? C'était l'Ajax, c'était Barcelone 3-0 face à Manchester United. C'était quel match?
C'était l'Ajax, tout simplement. Je suis belge et puis l'Ajax c'est pas très loin de Bruxelles. En plus, je suis du côté flamand en Belgique. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé l'Ajax. Ils avaient un centre de formation exceptionnel. Ils étaient parmi les meilleurs au monde avec Boca Juniors à l'époque. Et là, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. J'espère vraiment qu'ils vont gagner cette Champions League.
N'exagérons pas.
Moi aussi, c'est possible.
Ouais, non,
c'est
on va partir sur possible. Un débat. Ne
doute pas d'Hakim Ziyech, je te le dis tout de suite.
On a vu comment ils sont revenus contre Madrid quand même. Il faut voir comment ils avaient joué contre Madrid déjà. Et puis, comme il a dit, comment ils ont joué avec le cœur. Tout le monde défend, tout le monde attaque. Et à un niveau technique, il y a une maturité déjà. Même parfois, il y a quelques erreurs de jeunesse. Mais l'Ajax, avec cette gringa qu'ils ont, ils peuvent vraiment aller très loin dans cette compétition.
Mariama, quel match t'as le plus animé hier?
Bah, comme tout le monde, hein, évidemment, c'est Juve-Ajax. La question ne se pose même pas, je pense. En plus, j'ai regardé les deux matchs l'un après l'autre.
Et voilà, multizone, t'as vu, pour la graine.
En regardant d'abord l'Ajax.
Elle a fait mieux que moi. Moi, j'ai regardé les deux en même temps, alors qu'elle a regardé l'un après l'autre.
Mmh. Donc, sans connaître le résultat, évidemment. Et donc, j'ai regardé donc, l'Ajax en premier. Et ensuite, Manchester, ça a été compliqué de le voir dans ce sens-là, justement, parce que le deuxième match, évidemment, était moins spectaculaire. Et puis, on s'y attendait plus ou moins. Mais l'Ajax, en tout cas, on va revenir dessus de toute façon un peu plus tard dans l'émission, me semble-t-il. Mais Juve-Ajax, évidemment, c'est exceptionnel ce que fait l'Ajax cette saison. Réussir un parcours comme ils le réussissent actuellement, c'est magnifique, en fait, de voir une équipe avec un budget de 86 millions d'euros seulement, c'est-à-dire l'équivalent du sixième budget de Ligue 1.
Non, de l'équivalent de l'ULOSC, 90 millions.
À peu près, voilà. C'est à peu près celui du LOSC. C'est impressionnant quand même de se dire qu'une équipe qui va jouer justement sur la formation seulement, sur des joueurs qui ont été formés au club, évidemment avec un jeu spectaculaire, avec un jeu offensif, et ça c'est tout ce qu'on demande au football, c'est tout ce qu'on attend du football. Nous, en tant que de spectateurs et téléspectateurs, c'est tout ce qu'on demande. Donc voilà, on était impressionnés, c'était magnifique, et puis...
On en reparle dans quelques instants, Kamel.
Oui, moi c'est vrai que tout le monde... Moi j'ai pas fait comme les autres, je suis désolé, je suis un inconditionnel de Messi, j'ai regardé Barcelone. Moi j'aime bien tout ce qui est dans la continuité, qui dure longtemps, j'aime pas les one-shots, les annonces les tubes de l'été, etc. C'est vrai que l'Ajax, c'est une très très belle équipe, ça joue, mais profitez-en, mesdames et messieurs les supporters football, l'année prochaine, cette équipe n'existera plus. Après, quand on parle du budget, le budget est en conséquence du modèle économique que chaque équipe a, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire vous vous adaptez au modèle économique que vous avez. Si demain, il y a un investisseur qui vient à l'Ajax, ça sera plus 85 millions son budget, ça sera plus. Donc voilà le modèle. Mettons Barcelone, je verrai comme tout le monde une belle finale Barcelone-Ajax, ça serait magnifique.
Barcelone-Ajax, de toute façon, on en reparle dans quelques instants évidemment de Barcelone, de l'Ajax évidemment, qui se sont qualifiés pour ces demi-finales. On va parler aussi des matchs d'aujourd'hui, Manchester City, Tottenham, Porto, Liverpool et Nantes, PSGC ce soir. A tout de suite sur Beurre FM.
18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et on est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport avec les consultants Marion Edalo, Saïd Hamda, évidemment notre invité Ivan Bollet, Mariama Benrabia, Kamel Aïkera. Et on a parlé de la CAN, on a parlé de la Ligue des Champions, on a parlé de la start-up OnePlay. Et on va continuer de parler de Ligue des Champions. On a parlé de la victoire, évidemment, la victoire de Barcelone 3-0 face à Manchester et la victoire de l'Ajax 2-1 face à la Juventus. Et on va continuer d'en reparler, évidemment. On était en train d'en parler avec Mariama qui voulait qu'on continue d'en parler. Et j'étais avec Kamel. Kamel, tu nous disais quelque chose sur justement ce match entre l'Ajax et la Juve.
C'est le tube de l'été, Kamel.
Oui, moi, je...
L'Ajax.
Ah d'accord. Oui non mais l'Ajax.
J'ai déjà cette expression.
Oui, c'est vrai.
J'adore. Moi le parfum du mois.
Voilà, tu veux l'été. Non parce que moi j'ai regardé Barcelone, après j'ai regardé l'Ajax et là où ils ont été très forts l'Ajax, c'est qu'ils ont remis en place un système de jeu, c'est-à-dire qu'ils ont fait en défense parfois quand ils avaient possession de la balle, et ça c'est très fort pour ceux qui connaissent le football et qui ont joué au football, ils ont fait du 1 contre 1, c'est-à-dire ils avaient deux défenseurs sur deux attaquants, et ça il n'y a aucun entraîneur au monde qui le fait parce que les entraîneurs ils sont très frileux, et là il faut vraiment leur tirer le chapeau parce que c'est du 1 contre 1, c'est-à-dire qu'ils jouent généralement quand vous avez deux attaquants, vous mettez trois défenseurs, quand vous avez un attaquant, et c'est là où ils ont été très forts, ils n'ont pas eu peur, comme disait Saïd, de prendre un but parce qu'ils sont sûrs de leur force, et c'est là où vraiment je leur tire mon chapeau.
Est-ce que tu les vois comme notre invité, Ivan Bollet, justement gagner cette Ligue des Champions?
Bah disons que moi, Barça c'est très très fort. Sincèrement, c'est très très fort. Moi, je les ai vus hier. C'est défensivement, ils avaient un point faible, c'était défensif, mais avec l'anglais qui est vraiment formidable. Et non, c'est très fort. Ils jouent plus comme ils jouaient avant le Barça. C'est-à-dire avant, ils jouaient beaucoup en possession de balle. Maintenant, ils jouent plus en. Souvent, ils ont des attaques directes. Ils sont bien en place. Et derrière, Piqué et l'anglais font une saison formidable, surtout l'anglais. Donc, je pense que ça va être équilibré. Moi, je dirais que ça sera équilibré. Après, tout dépendra du génie de Messi.
Moi, je trouve personnellement que le jeu du Barça n'a pas trop changé.
Ah, si, ils jouent. Regarde, de temps en temps, ils jouent en.
En tout cas, il y a un vrai débat, mais il est très fort, hein, Kamel. Il maîtrise vraiment bien la sémantique, hein, puisque évidemment sa réponse est Joker. Marion.
Non, mais je suis
Joker Messi, à Guillaume.
Moi, je trouve que le Barça avance tranquillement pour moi, comme le Real les autres années. C'est-à-dire que on les voit peut-être pas totalement venir. Il y a d'autres choses plus intéressantes. On est intéressé effectivement par l'Ajax, qui est incroyable. On va regarder les matchs de ce soir, etc., etc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve qu'il y a plus cette histoire de passe à 10 où on perd du temps, où on fait tourner le ballon. Machin. Je pense que Guardiola est bien loin, loin derrière nous. Et je trouve qu'au contraire, je trouve que c'est une équipe qui est offensive. Le seul défaut du Barça, pour moi, le seul, c'est qu'il n'y a pas de tir de loin. Voilà, il n'y a pas de grosse
mine. Donc, c'est toujours le jeu avec Guardiola.
Non, parce qu'il n'y a pas de passe à 10. On perd pas
de
temps.
Il y a toujours une passe à 10. Pour moi, il y a toujours une passe à 10. Après, évidemment, il y a toujours les individualités, comme Messi, qui sont capables de faire la différence sur une action. Mais c'est toujours une passe à 10.
Non, il y a quand même, je trouve que.
Oui, il y a du jeu plus direct.
Il y a du jeu beaucoup plus direct.
En tout cas, Marion, est-ce que tu y crois à la finale Ajax-Barcelone?
Non mais attendez, moi j'enterre pas City, j'enterre pas Liverpool, j'enterre pas Tottenham.
On va en parler dans quelques instants.
Je peux pas enterrer ces équipes-là, c'est impossible pour moi. Je peux pas enterrer Mané, je peux pas enterrer Sané, je peux pas enterrer.
Et ben on va pas les enterrer.
Ni Guardiola.
Et on va en parler tout de suite d'ailleurs, puisque évidemment on avait prévu dans le duel, voilà, de parler des matchs de ce soir. Voilà, c'est parti pour le duel.
Time Sport. Le duel. Le duel.
Et le duel, c'est ce soir entre Manchester City et Tottenham et entre Porto et Liverpool. Et donc tu disais à l'instant que tu ne les enterrais pas. Donc,
mais je les enterre absolument pas. Et je sais que l'Ajax a fait gros parce que sortir le Real et la Juve, c'est énorme. Mais encore une fois, la Juve, il y avait des trous. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et le Real, mine de rien, c'est un Real qui avait déjà gagné 3 fois la Ligue des Champions.
On ne peut pas comparer quand même le Real, la Juve à l'Ajax. C'est quand même, quoi qu'il arrive, même avec l'équipe bis, logiquement, ils sont censés être au-dessus.
Non, mais on sait bien, Mariama, quand même, qui a toujours quand même en demi-finale, enfin souvent, en tout cas tous les deux ans, une équipe qui crée la surprise. Je veux dire,
ça fait deux surprises. Et une équipe qui a battu.
Pourquoi deux?
Deux surprises face au Real. Je parle de l'Ajax face au Real et ensuite face à
Non, mais on sait qu'il y a toujours une équipe qui arrive en demi. Non, mais alors, Monaco, il y a deux ans, c'était une surprise.
On va repartir sur les rencontres de ce soir. On va se concentrer plutôt sur Manchester City et Tottenham, puisque l'Ajax, on l'a évoqué il y a quelques instants. Voilà, City-Tottenham, les hommes de Guardiola qui, à la croisée des chemins, puisque Pep Guardiola est-il devenu trop prudent? Voilà, c'est la question qu'on pourrait se poser. Sans victoire ni finale en Ligue des Champions depuis qu'il a quitté le Barça en 2012. Pep Guardiola apparaît-il sous pression alors que Manchester City a perdu le quart de finale aller à Tottenham 1-0, Saïd?
C'est quoi la question?
Il est endormi, ça y est. Ça va pas du tout.
Est-ce qu'il est sous pression?
Je vais le relancer. Ouais. Est-ce que Guardiola est sous pression? Est-ce que finalement. Moi, juste une chose. City ne joue plus assez direct. Je vais être d'accord avec Mariama. City a pris le jeu du Barça et c'est peut-être ça qui va être le danger de City. Mais oui, ma chérie. Avec la passe à 10, alors que City jouait de manière très directe. Et aujourd'hui, ça tergiverse beaucoup. C'est très. On passe le ballon à compagnie et on connaît le truc et voilà.
On attend l'ouverture dans la surface de réparation.
Il y a un joueur qui s'appelle Compagnie.
Saïd.
C'est très beau. C'est très beau, c'est parce qu'il y a un ami belge alors à table. Alors j'essayais de parler de Compagnie.
Il n'a pas relevé.
Saïd, est-ce que Guardiola, il est sous pression?
Bien sûr qu'il est sous pression parce que cette année, il tombe sur un club ouvertement plus faible que lui. Il tombe sur un club anglais, donc un club qu'il connaît bien. Et là, Guardiola, s'il est pris à City, c'est pas pour gagner la Première Ligue. Il est là pour gagner la Ligue des Champions. S'il atteint pas le dernier carré, c'est un échec cruel pour Guardiola. Donc son petit football à la passe à 10, ça n'a pas marché au match aller. Il faut impérativement que ça fonctionne au match retour. Parce que là, on critique beaucoup le Paris Saint-Germain sur le projet. Il faut savoir que City, ils sont sur le projet de la Ligue des Champions depuis 2008. Donc ça fait quand même un peu plus longtemps. Ils ont changé plein de fois d'entraîneur. Et Guardiola est censé être l'ultime étape pour avoir la Ligue des Champions. Si Guardiola échoue là, c'est un énorme désaveu pour lui et pour sa fille. Ça veut dire qu'elle ne fonctionne plus.
En tout cas, c'est peut-être inquiétant puisque Barcelone est en finale et Pep Guardiola, la dernière fois qu'il était en finale, c'était avec Barcelone ou pourquoi pas évidemment retrouver.
Est en demi-finale Barcelone, non, pas encore en finale.
Non, mais je dis, ça peut être inquiétant dans la mesure. Je vois le futur. Attends, faut se dire, Barcelone, il y a deux matchs ce soir, mais ils peuvent quand même aller en finale.
Si City se fait éliminer, ça va montrer que quand même Guardiola, sa méthode ne fonctionnait qu'au Barça parce qu'il avait les joueurs pour. Il avait les joueurs de ballon espagnol et il avait Messi. Le facteur Messi, dès qu'il n'a plus Messi, quand il arrive au Bayern Munich, il n'arrive pas à imposer cette philosophie-là. Il fait 3 ans et il s'en va et il s'est embrouillé avec le club avant de partir. Il s'est embrouillé avec le médecin et avec les dirigeants, etc. Il arrive à City et c'est un petit peu la même histoire. Alors oui, City joue bien au ballon, c'est sympa en Première Ligue. Des fois, on met des 5-0 à Watford, mais à un moment donné, on veut du concret.
Mariama.
Bon, c'est un secret pour personne, je ne suis pas fan du jeu de Guardiola.
Ah bon ? Je suis très étonnée.
Mais j'ai juste envie de rebondir sur ce que disait Saïd. Il a imposé sa philosophie au Bayern, mais ça ne fonctionnait pas. Parce que justement, peut-être qu'il avait les éléments pour à Barcelone et qu'il ne les a pas eu après au Bayern. Ça ne veut pas dire qu'il avait une belle équipe, au contraire. Mais il ne sait pas faire avec les forces d'une équipe et avec les atouts d'une équipe. Je crois qu'il ne sait pas s'adapter. Et en fait, ça a posé problème au Bayern Munich. Parce qu'il y a quand même, dans le jeu allemand, dans le jeu du Bayern, il y a quand même des forces que tout le monde connaît d'ailleurs. Notamment les frappes lointaines, les coups de pied arrêtés. Bien sûr, mais tout le monde.
On ne travaille pas.
Kamel, rapidement.
Ça n'a jamais pris. Et là, à City, c'est un peu la même chose en fait. C'est toujours le même problème, faire tourner la balle et attendre l'ouverture dans la surface de réparation. Plus que ça, c'est dans les 10 mètres. Alors qu'il y a des forces dans cette équipe, il y a des joueurs qui ont un talent monstre. Et je pense qu'il ne sait pas faire pour en tout cas. Optimiser leur potentiel.
En tout cas, on verra ça ce soir. C'est Manchester City Tottenham à 21h. On va parler, Kamel, on va passer à l'autre match, Porto Liverpool. Un petit mot sur ce match, évidemment. Liverpool qui voyage sans assurance à Porto.
Ah oui, parce qu'ils ont gagné 2-0. C'est vrai que bon, Liverpool, moi j'adore cette équipe. J'adore ce qu'a fait Jürgen Klopp de cette équipe. Hein, parce que moi, ça fait des années que je suis Liverpool et Liverpool était vraiment dans le milieu du tableau, n'avait pas d'âme, n'avait rien. Lui, il est arrivé, il a vraiment mis sa patte. Il s'est. À la différence de Guardiola, c'est que lui s'est adapté à ses joueurs. Il avait sa philosophie, Klopp, mais il s'est quand même adapté à ses joueurs. Mais à Porto, le problème des 2-0, c'est comme on dit dans le football, c'est toujours le troisième but qui est le plus important. C'est-à-dire, soit vous prenez 2-1, et là, après, c'est assez compliqué dans l'évolution du match, ou soit vous en mettez un 3. Mais moi, je pense que ça va être difficile à Porto. Mais avec les joueurs formidables qu'il a, moi j'ai encore vu le match dimanche avec le but de Salah, etc. Il a des joueurs qui peuvent changer un match en 5 secondes, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Mais ça, ce qui est important, c'est que ça nous procure des matchs, des bons matchs à énigme. Et moi, je pense qu'ils vont passer Liverpool. Mais après, le football nous a appris avec PSG, avec tout le monde, qu'il ne faut jamais être trop sûr de soi. Mais quand même, au-delà de ça, c'est le jeu que produisent les équipes, c'est important parce que Guardiola sorti de Barcelone, on a vu qu'il est amorphe.
Non, mais surtout, il faut rappeler que Porto est passé très difficilement. Ouais. Face à l'AS Roma, ils sont allés jusqu'en prolongation, ça a été compliqué, ils ont eu un pénalty, etc. Donc là, Porto a déjà forcé le barrage. Quand on dit que Liverpool arrive sans assurance, on veut vraiment donner de l'intérêt au match. Liverpool, ils ont toutes les garanties nécessaires, ils ont mis 2-0 à l'aller. Là, pour moi, ils vont juste finir le boulot. Et Liverpool est dans la continuité de ce qu'ils faisaient déjà l'année dernière, c'est qu'ils ont fait quand même une finale de Ligue des Champions. Et là, ils partent pour aller dans la continuité. Il n'y a rien d'étonnant. Pour moi, Porto n'est qu'une étape parmi tant d'autres.
Ivan, un petit mot justement sur les matchs ce soir. Manchester City, Tottenham, Porto, Liverpool. Tu seras devant quel match?
Je pense que je serai sur Tottenham. Je serai sur Tottenham Manchester.
Tottenham Manchester City, on t'entendait pas très bien.
Oui, voilà, je serai sur Tottenham Manchester City parce que Tottenham, c'est qu'il fait vraiment très bien par exemple, par rapport à Dortmund. L'élimination était très agréable. Là, ils ont gagné la dernière fois. Et Manchester City, si, va quand même essayer d'être très agressif parce que tout le monde sait, et Pep Guardiola, je pense qu'il sait très bien que sa stratégie ne fonctionne pas. Il va peut-être essayer de proposer quelque chose d'autre pour pouvoir passer.
En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, la Ligue des Champions, puisqu'on est en quart de finale. Manche 2, c'est ce soir Manchester City, Tottenham, Porto, Liverpool. On n'a pas eu le temps d'en parler, évidemment, du Paris Saint-Germain. Désolé, Marion. Voilà, en tout cas, le PSG qui.
Mais non, peut, je voulais dire du bien de Porto,
qui,
moi.
Qui peut assurer son titre ce mercredi soir à Nantes. Ça, voilà, ça, faut le savoir, évidemment. Nantes PSG, c'est ce soir. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Merci aux consultants Marion Hédalo, Saïd Hamda, à notre invité Ivan Bollet, Mariama Benrabia, Kamel, Aïd Kera.
Retrouvez Tiny Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.